salut à toutes et bienvenue dans EJT Foot. Dimanche soir, les Violets se sont lourdement inclinés à la Mosson contre Montpellier. Les Toulousains ont perdu sur le score de 3-0 sans jamais sembler proche de gêner les Montpelliérains. On va bien sûr revenir sur cette rencontre qui place le TFT dans une position très inquiétante au classement. Et on évoquera la prochaine rencontre des Violets face à l'Olympique de Marseille dans 10 jours. Une partie de l'équipe d'EJT Foot était également présente au Stadium lundi soir pour la dernière de Rodez à Toulouse. Le RAF recevait Lens pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Clément vous parlera plus précisément des Ruthénois et de leur exil dans la Ville Rose. Comme dans chaque émission, on attribuera également nos traditionnelles récompenses aux joueurs du TEF, le magret, la violette et la saucisse. Puis on terminera par un quiz concocté avec amour et passion par Julien. Allez, trêve de bavardage, EJT Foot, c'est parti! Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de JT Foot. Avec moi autour de la table, Samy, Thomas et Hugo. Ça va les gars ?
Ça va, nickel.
Et parfait. Allez, on démarre sans plus attendre par l'actu de la semaine préparée par Samy. C'est parti pour le TEF Actu.
Et pour commencer, je voulais choisir. Dans ma besace là du TEF Actu, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez laquelle les gars en premier ?
Vas-y, la mauvaise, toujours en première.
La mauvaise en premier, c'est ça concerne William Vainqueur qui malheureusement a été averti pour une troisième fois de suite d'un carton jaune lors des 10 derniers matchs. Du coup, il va manquer la rencontre à domicile face à l'OM. C'est une chose rare pour être souligné, mais ce sera le match du dimanche soir, le 24 novembre prochain à 21h au Stadium. Donc ce sera sans William Vainqueur. La bonne nouvelle maintenant, je vous laisse juger, hein, je l'ai classifié en bonne nouvelle, mais il y a le retour de Steven Moreira qui était suspendu pour cette rencontre face à Montpellier et qui pourra lui justement faire partie de la rencontre.
C'est vrai que ça, c'est pas sûr que ce soit une bonne nouvelle.
Ouais. Voilà, c'est pour ça que je vous laisse juger. Pour ce match, du côté marseillais, André Villas-Boas ne pourra pas compter sur trois de ses défenseurs lui aussi. Donc Alvaro Gonzalez, hein, qui a écopé d'un carton rouge face à Lyon. Il y aura également l'absence de Douré Caleta-Car, vous m'excuserez pour la prononciation, et Jordan Amavi qui ont tous les deux accumulé donc 3 cartons jaunes, comme William Vainqueur, qui ne seront pas disponibles pour jouer contre le TFC, donc une défense marseillaise décimée. La conséquence directe, ça pourrait être le retour du jeune Lucas Perrin, qui pourrait être titularisé aux côtés de Boubacar Camara.
Et sinon, ça donne quoi pour les autres équipes du TEF, Sam ?
Eh bah, Corentin, c'est un week-end un peu tristouné hein, dans la Ville Rose. Dimanche, la réserve du TFC n'a pas su faire mieux qu'un match nul sur la pelouse d'Aigues Mortes, 2-2. Les buteurs Adil Taoui sur penalty et Mamadi Bangré. A noter que Corentin Jean a disputé son premier match depuis sa rupture des ligaments croisés. C'est d'ailleurs lui qui a obtenu le penalty du TFC. Et on retiendra également la bonne performance de Nathan Ngoumou, qui a été passeur décisif justement sur le but de Bangré. Au classement de National 3, la réserve elle est 9ème sur 14 avec seulement 10 points en 9 journées. Loin derrière Canet en Roussillon, large leader avec 23 unités. Le prochain match, il aura lieu à domicile face à Béziers, l'équipe B, dimanche 24 novembre à 15h. Les Pichounes ont quant à eux perdu 3-2 à domicile face au leader montpelliérain. Noah Lopez et Fares Chaibi ont inscrit les 2 buts des violets. Les finalistes de la Coupe Gambardella 2019 sont 8e à 4 points de la place qualificative pour les playoffs. Avis aux supporters violets nostalgiques, Fodé Mansaré est de retour. Pendant des années, il a régalé sur l'aile gauche du Toulouse Football Club. Et à 38 ans, il a annoncé son retour sur les terrains 5 ans après avoir pris sa retraite. L'homme aux 154 matchs avec Toulouse va rechausser les crampons en vue de la nouvelle saison de Ligue 1 guinéenne. C'est le compte du Flamme Olympique FC, club dont il est président à signaler, qui a annoncé la nouvelle. Mansaré s'est engagé pour une saison. Un autre retour un peu particulier celui-ci, celui du TFC dans le centre-ville. Et oui, depuis la fin des années 90, la boutique du centre-ville du Toulouse Football Club n'existait plus. Il est désormais possible d'acheter son maillot en plein cœur de la Ville Rose. Le club vient de nouer un partenariat avec l'enseigne Midika, place Esquirol, pour installer un corner au 4e et dernier étage du bâtiment. C'est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 hein, pour les intéressés. Midika vend désormais les maillots, les shirts, les écharpes et toutes sortes de produits dérivés sur 60 mètres carrés. Les supporters pourront également acheter leur place pour les matchs, à commencer par celle pour celui de Marseille. Bon, vu le prix, c'est difficile de garantir une forte affluence, les moins chers s'élèvent à 30€. Et pour finir, on part en Égypte, où la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans a démarré ce vendredi. Alors pourquoi je vous parle de cette compétition ? Eh bien parce que 2 joueurs du TFC ont été sélectionnés, Ibrahim Sangaré avec la Côte d'Ivoire et Stéphane Zobo avec le Cameroun. Donc si l'attaquant a déjà rejoint son équipe nationale, Sangaré, lui, il a dû attendre le match de dimanche, hein, face à Montpellier, parce qu'Antoine Comboiré comptait sur lui, il l'a d'ailleurs titularisé. Sangaré, il a manqué en restant avec Toulouse le premier match de son équipe et il sera disponible pour affronter l'Afrique du Sud. Allez, c'est fini pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal.
Allez, c'est pas mal, je crois qu'on n'a jamais eu un TFAQ aussi complet là. Bon, en tout cas, merci Samy. Et là maintenant, il est temps pour nous de passer à la suite. Et pour une fois, on va commettre une infidélité envers le TFC puisqu'on va faire un petit tour en Ligue 2 et parler de Rodez. Le RAF joue pour la première fois de son histoire en Ligue 2 après avoir été champion de National la saison dernière. Problème, le club aveyronnais n'a pas de stade homologué pour ce niveau de compétition et délocalise ses matchs à domicile au stadium de Toulouse.
Mais plus pour longtemps, Corentin, Rodez a entamé des travaux dans son stade dès l'accession en Ligue 2 en mai dernier. Résultat, le retour des Ruternois à Paul Lignon ne devrait plus tarder. Il est prévu le 29 novembre face au Havre, sous réserve d'homologation par la Ligue de football professionnel et la préfecture. Et les supporters ont hâte de retrouver leur propre enceinte. Hervé est président de l'association du COP Ruthénois.
Il nous tarde de le retrouver, quoi. Notre cher Paul Lignon, il nous tarde. Là, de le trouver rajeuni, on sait qu'il y en a encore pour 2 ans pour qu'il soit totalement fini, mais déjà retrouver la maison. Comme on dit, on aime bien se promener, mais retourner à la maison, ça fait toujours plaisir, quoi.
Alors, qu'est-ce qui a changé en 5 mois dans ce stade? Une partie des tribunes a été rénovée, les vestiaires aussi. Une pelouse hybride chauffée a été posée. Un éclairage 2 fois plus puissant a été installé. Et ça, c'est la première phase des travaux. Il y a 3 phases. Une 2e étape prévoit la destruction de la tribune Est avant sa reconstruction. Enfin, la 3e étape verra la construction d'une nouvelle tribune en face de la première. Au total, le stade Paul Lignon devra accueillir 9000 places en 2021, montant des travaux 12 millions d'euros. En attendant, comme tu l'as dit Corentin, le RAF évolue à domicile au Stadium de Toulouse, à 150 km de Rodez. Un stade qui ne leur réussit pas trop mal, 7 matchs, 4 victoires, 1 match nul, 2 défaites seulement, dont hier contre Lens. C'est 13 points pris sur 18 au total, à tel point qu'il nous ferait presque croire qu'on est à Rodez. Mais lundi soir, pour leur dernier match au Stadium, les Ruthénois sont repartis déçus de la capitale d'Occitanie. En fermeture de la 14e journée de Ligue 2, Rodez accueillait le Racing Club de Lens. Score final 2-1 pour les Nordistes, actuellement leader de Ligue 2. De son côté, le RAF est 11e, objectif maintien. Et ce serait beau de maintenir le club à ce niveau jusqu'à ce que Paul Lignon ait terminé son lifting.
Ouais, d'autant que c'est des sangaiores un peu moins connus, mais qui sont extrêmement attachants. On a pu les voir très hier sympa. Soir. Ouais. Allez, bon bah maintenant retour aux habitudes et c'est l'heure de parler du TFC. Dimanche, le TEF se déplaçait sur la pelouse de la Mosson avec pour objectif de faire oublier les 2 dernières défaites contre Rennes et Lyon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Violets ont vécu une rencontre particulièrement compliquée. Les Montpelliérains ont rapidement ouvert le score sur un magnifique but de Delors à la 15e minute. Un but néanmoins refusé après utilisation de la VAR pour un hors-jeu peu évident. La sanction ne tardera pas à arriver avec un but de Laporte à la 43e pour conclure un festival de Delors toujours lui. Le Talek viendra doubler la mise de la tête en seconde période avant que Savanier ne tue la rencontre sur une frappe lointaine à la 75e. Les Violets ne sont jamais vraiment rentrés dans leur rencontre, attendant même la 82e minute pour décrocher leur première frappe cadrée. Score final logique et implacable, 3-0 et une belle correction pour le TFC. Avec cette défaite, Toulouse coule et se retrouve à la 19e place du classement de Ligue 1. C'est également le 15e match consécutif sans victoire à l'extérieur des Violets, la plus longue série en cours pour un club de Ligue 1. Le dernier déplacement victorieux pour le TEF remonte au 19 janvier avec une victoire 0-1 au Costières de Nîmes. Les gars, c'est une stade qui fait peur. Comment vous expliquez cette difficulté à accrocher une victoire à l'extérieur?
Écoute, c'est difficile à expliquer, hein, sincèrement. On sait que c'est toujours plus difficile d'aller à l'extérieur, hein, ça paraît logique. Tu vas dans un stade que tu connais pas ou peu, des supporters adverses parfois... véhément, etc. Enfin, je vais pas vous expliquer le football, mais c'est vrai qu'une si longue série pas gagnée depuis le 18 janvier 2019, c'est quand même impressionnant. Plus concrètement, le système, je pense qu'on va en parler, hein, mais il a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que Le 4-3-3, il n'a pas été efficace. Déjà, Sanogo seul en pointe, on le savait l'année dernière, ça ne fonctionnait pas très bien. C'est un joueur qui aime bien être accompagné autour, avec par exemple Koulouri cette année, comme dans le 4-4-2, assez complémentaire. Surtout, c'est un système, sans rentrer dans le détail du jeu, de la tactique, etc., c'est un système qui demande en fait de l'envie, un minimum d'envie, un minimum d'intensité et un minimum de créativité. Et en fait, il manquait tout hier. Il y avait pas du tout l'état d'esprit, il y avait rien. On voyait 11 joueurs sur le terrain qui faisaient à peine les efforts. Sincèrement, c'était dimanche d'ailleurs. Et c'était très impressionnant à voir dans la situation actuelle du TEF. Et surtout après que Comboiré ait demandé un soutien général, quoi. Donc voilà, moi ça m'a vraiment impressionné.
Ouais, mais au-delà même que ça fasse peur, c'est même triste. Enfin, moi personnellement, quand on regarde là le fond du jeu, tu parlais de grinta, de manque aussi d'envie, c'est criant en fait. Et le souci, c'est que, alors je ne sais pas si ça traduit pas un manque peut-être, une fragilité peut-être même mentale. Parce que justement, je pense que oui, les supporters du TFC poussent l'équipe, enfin essayent au moins de pousser l'équipe. On l'a vu contre Lyon au dernier match à domicile.
Les quelques supporters du TFC qui sont là, ils sont pas non plus très nombreux.
Oui, les quelques, mais ça aide, je pense, un peu l'équipe. Là, on l'a vu contre Lyon, il y avait quand même un soutien. Et là, je sais pas, à l'extérieur, du coup, je peux pas trop expliquer. Là, quand tu dis justement la stat, là, ça fait quand même 11 mois, du coup, sans victoire à l'extérieur, c'est difficile à expliquer. Enfin, personnellement, je trouve pas en fait.
Puis c'est surtout difficile à comprendre étant donné les deux dernières performances du TEF, notamment à domicile. On avait vu vraiment du jeu et là il n'y a rien eu du début jusqu'à la fin. Il y a eu deux frappes cadrées et elles ont été à la 80e et à la 88e, je crois. Donc c'est vraiment pour un TFC qui se voulait joueur, en tout cas avec Comboiré, ben là c'est complètement raté. Il n'y a rien eu vraiment, que ce soit dans toutes les lignes, en défense, on va en reparler, mais ça a été plus qu'horrible. Au milieu de terrain, les trois joueurs du milieu de terrain ont été vraiment passifs. Et en attaque, c'est peut-être un souci au niveau de la tactique aussi, mais c'est vrai que Sanogo tout seul, on a vu ce que ça donnait l'année dernière, c'était pas terrible. Et puis là, on est retombé dans les mêmes travers. Donc très très dure soirée pour le TEF dimanche.
Et justement, là, c'était la première fois que Comboiré abandonnait son 4-4-2 pour passer un 4-3-3. Et c'est la première fois depuis qu'il est arrivé qu'on voit le TFC aussi inoffensif, aussi inexistant dans le jeu, qui semble aussi loin de pouvoir accrocher ne serait-ce qu'un point. Et est-ce que, selon vous, la contre-performance est due à ce changement tactique ?
En tout cas, moi, j'avais des doutes quand j'ai vu la composition 4-3-3. On s'est tous demandé pourquoi, finalement, revenir au 4-3-3, sachant que le 4-4-2 de Comboiré avait très bien fonctionné lors de ses trois premiers matchs, même s'il y avait eu des contre-performances face à Lyon notamment, où ils avaient même été trop joueurs finalement. Et puis là, on est revenu à un système de jeu qu'on connaissait avec Casanova, qui n'a pas fonctionné du tout lors de la dernière saison. Et là, je ne sais pas pourquoi, si c'était la peur finalement du système du 5-3-2 de Montpellier, qui est particulier, on le sait. Mais c'était vraiment bizarre, quoi. Un choix inexplicable. Maintenant, quoi. Pourquoi maintenant ?
Moi, je pense qu'il a voulu, comme tu l'as dit, Hugo, il a voulu en fait s'adapter à Montpellier et jouer à la Mosson. On l'avait annoncé la semaine dernière, c'est toujours compliqué, ça fonctionne très bien et c'est une équipe vraiment très dure à prendre avec le système en 3-5-2, justement. Et je pense qu'il a voulu s'adapter à ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas personnellement l'explication tactique parce qu'on l'a compris très rapidement. Au bout de 10-15 minutes, ça allait pas du tout le faire. Gradel à gauche, inexistant. Dosevi qui est très bon depuis le début de la saison, il a tenté mais pareil, inoffensif. Sanogo esselé devant, Sangaré, il enchaîne les contre-performances malheureusement. Enfin, on va pas tous les citer, hein, mais c'est vrai que ce système finalement il a pas été très adapté. Mais d'ailleurs en deuxième mi-temps il a sorti vainqueur pour faire rentrer Koulouris et du coup il a réadapté, mais il n'y a pas eu d'amélioration. Donc ça répond à ta question, en fait c'est pas que le système, il manque aussi
justement pourquoi pas mettre Koulouris.
Vous n'avez pas aimé la prestation de Koulouris, justement ? Je trouve qu'il a fait une entrée plutôt intéressante.
Ouais, mais justement, pourquoi pas le mettre titulaire ? Enfin, c'est un des joueurs offensifs les plus intéressants, je trouve, du TFC. C'est une des meilleures recrues. Et pourquoi le mettre sur le banc ? Alors peut-être oui, peut-être pour s'adapter à Montpellier, mais je trouve ça dommage. Parce que justement, il joue beaucoup en appui. Il peut permettre de bien redistribuer. On l'a vu qu'il sait le faire. Il sait aussi marquer. Le voir rentrer à la mi-temps, pour moi, c'est un peu frustrant, personnellement. Mais...
Puis en plus, en jouant 4-3-3 comme ça avec Sanogo, c'est vraiment un gabarit plus que particulier. En Ligue 1, il y a des équipes qui jouent en 4-3-3 avec des attaquants du même profil, on va dire de la même taille que Sanogo. Par exemple, à Strasbourg, il y a Strasbourg qui joue souvent avec Ajorc tout seul. Il y a même, on peut citer même en équipe de France avec Giroud, mais c'est vraiment des joueurs qui impactent physiquement les défenseurs adverses. Et Sanogo, je pense que c'est sa plus grosse faiblesse, c'est que physiquement, il n'use pas les défenseurs adverses. Donc c'est quand même assez compliqué, notamment dans le domaine aérien, c'est plus que limite, quoi.
Pourtant, l'année dernière, on l'a vu titulaire une bonne partie de la seconde saison, et ce qu'on lui la deuxième partie de saison, ouais. Ce qu'on lui reprochait beaucoup à Sanogo, c'était quand même plutôt le fait qu'il n'arrivait pas à en mettre un au fond, mais on trouvait que dans le jeu, dans l'impact et dans son pressing sur les défenseurs, il était justement intéressant.
Peut-être, peut-être, mais en tout cas, il ne gagne pas assez pour permettre à ses coéquipiers, notamment sur les côtés, Dosevi et Gradel, de profiter de son travail. Il y a vraiment une déficience à ce niveau-là, et je trouve que c'est dommage, quoi. Pourquoi pas, oui, comme l'a dit Thomas, pourquoi pas mettre Koulouris, finalement, pour essayer de changer, au moins de varier, quoi.
Donc, si je vous écoute, c'est pas le changement tactique, le problème, c'est juste le manque d'envie et le TFC tout court.
Bah, sans envie, c'est compliqué déjà. Parce que c'est bien, enfin, le schéma tactique, certes, c'est important, mais s'il n'y a pas la grinta, s'il n'y a pas l'envie de se battre, comme ce qu'ils sont, ils ont montré ça à Lyon. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils sont, enfin, ils sont irréguliers. Ce qui montre le jour et la nuit en deux matchs, et c'est pas possible à ce moment-là, surtout à l'extérieur, où c'est forcément plus compliqué de base. Donc,
On se répète un peu, hein, mais en fait, c'est vrai qu'il y a eu des choses dimanche qui étaient quand même inexplicables. Il n'y a qu'à prendre les buts, hein, tout simplement, déjà. Le premier but, une mauvaise relance, enfin aucune envie derrière pour récupérer le ballon. Le deuxième, Silla qui, de façon très incompréhensible, sauve le ballon qui sort en corner pour le rendre directement dans les pieds de l'arrière latéral droit qui centre but. Voilà. Le troisième, Izimat Mirin qui perd le ballon, qui marche. Enfin, sincèrement, c'était même René qu'on a encensé là depuis le début de l'année qui fait une très 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 bonne un très bon début de saison, pardon. Bon, il a joué blessé, on l'a appris après, mais il est fautif pour moi sur le but de TJ Savanier,
oui,
complètement fautif. Donc,
Et puis même Montpellier, je pense qu'il y a eu le pressing d'entrée de jeu qui a beaucoup joué. On a vu que le milieu à 3 avec Chotard notamment et le Talek à la récupération de Montpellier, ça montait très très haut. Je pense que voilà, le milieu de terrain a été vraiment aspiré. De suite, il s'y attendait peut-être pas aussi rapidement, et finalement, c'est ce qui a fait la différence. Tout au long du match, le milieu de terrain n'a pas su s'adapter, finalement, que ce soit au pressing des attaquants ou même des milieux de terrain montpelliérains qui sont montés très haut de suite à la récupération, quoi.
Pour s'éloigner un petit peu du champ tactique, on assiste à une nouveauté depuis l'arrivée de Comboiré. Ils donnent beaucoup leur chance aux jeunes, donc il y a Manu Koné qui vient d'être titularisé 2 fois, Goncalves l'été contre Lyon, Diarra contre Montpellier dimanche. Il y a aussi le petit Sacha Semaoun qui a été appelé pour la première fois dans le groupe dimanche. Ça donne quoi pour l'instant l'intégration des Pichoun? Vous pensez que c'est une bonne stratégie au vu du classement et de l'effectif du TFC?
Écoute, moi je pense que c'est une stratégie logique parce qu'on le sait, le TFC forme beaucoup de bons jeunes. Ça peut être une solution, on est encore à un moment de la saison qui n'est pas crucial en termes de classement et de résultats, même si ça reste important. Donc ça peut, maintenant la situation elle est compliquée, je pense notamment en défense, Goncalves, on l'a dit la semaine dernière, il dépanne en défense centrale et malheureusement il est pas prêt et du coup il enchaîne 2 performances moyennes. Diarra, c'était pareil, ça a pas été fameux. Maintenant on n'a pas envie de les enterrer parce que c'est des jeunes joueurs et qu'ils ont énormément à prendre. Mais Diarra dans l'axe, on sait qu'il a plus tendance à jouer latéral gauche. Moi je l'ai trouvé absent, je l'ai trouvé en retard souvent. Voilà, Koné, je suis positif parce que je l'ai trouvé, c'est le seul pour moi qui a un peu tiré son épingle du jeu contre Montpellier. Il a quand même tenté des percées, bon il a rien fait d'extraordinaire et ça a pas changé le cours du match, mais toutes ses interventions, ses passes, son orientation du jeu, sa persécution aussi a été bonne, et moi pour moi c'est vraiment
sa
persécutation, voilà. Merci Corentin.
Hugo, t'en penses quoi des Pichoun, toi?
Ouais, après, on sait que l'objectif de Comboiré, voilà, c'est de faire monter petit à petit des jeunes aussi. Il aime bien jouer avec les jeunes pousses du club, comme il l'a fait notamment dans ses différents clubs. Mais après, on sait que Koné, on lui en demande peut-être un peu beaucoup aussi, parce que c'est vraiment une pièce importante du milieu maintenant, on peut le dire. Même si c'est que le début de saison, mais on voit que sous Comboiré, en tout cas, il se confirme comme titulaire. Il y a le jeune Diarra et même Goncalves en défense. Après, c'est le problème, on l'a déjà dit, de la défense, on va le répéter encore et encore. C'est les absences de titulaires en puissance, comme Choji ou alors Rogel, même s'il vient d'arriver.
Diakité aussi.
Diakité, voilà. Mmh. Donc, je pense que les jeunes sont vraiment mis à contribution, mais en même temps, est-ce qu'ils peuvent supporter la pression directement comme ça, sachant qu'ils sont, il leur faut peut-être un temps d'adaptation aussi. Donc, on va voir.
Même, je pense que même Comboiré n'a pas trop le choix. Quand on voit même des fois des performances. Bon, là, vainqueur et titulaire, c'est un cadre. Il a été recruté pour ça, mais quand on voit ses performances, je comprends même pas qu'il soit encore titulaire, honnêtement.
Si, il avait été plutôt bon quand même face à Lyon et même face à Lille. Hein.
Depuis le début de la saison, il est satisfait pour toi sur le...
Non, mais il est assez régulier, c'est son défaut. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il se retrouve notamment dans des équipes comme le TFC, c'est-à-dire qu'il ne peut pas monter plus haut, on va dire. Mais il est assez irrégulier, mais en tout cas, il a un bon fond de jeu. Mais après, voilà, il faut vraiment être capable de répéter ces matchs-là. Quoi. Et lui, malheureusement, ce n'est pas le cas.
Et vous pensez pas quand même donc que c'est un peu tôt pour certains quand même, parce que quand on voit un Goncalves, un Diarra, c'est assez inquiétant dans leur performance.
C'est un peu tôt, mais il n'y a pas vraiment le choix en fait. C'est ce qu'on répète, notamment en défense. Koné, honnêtement, il est bon et il y a Makengo sur le banc, donc il pourrait y avoir une alternative. Maintenant, ses prestations sont très intéressantes, donc il est plutôt pertinent. Mais c'est vrai qu'en défense, voilà, il a enchaîné Diarra, Goncalves. Tant qu'il n'y aura pas de retour, en fait, je pense qu'il n'y aura pas d'amélioration, malheureusement. Et c'est vrai que c'est compliqué d'intégrer un jeune qui a besoin de confiance dans un contexte comme celui-là, à la Mosson en plus.
Et quitte à faire jouer les jeunes, vous ne seriez pas partisan de tenter une doublette au milieu, Makengo avec Koné?
Ça peut être une idée, ça peut être une solution, il y en a pas mal. C'est vrai que pour l'instant, Makengo, il a pas trop la chance de s'exprimer avec Comboiré, mais Vainqueur, par exemple, est suspendu pour le prochain match là contre l'OM, donc ça peut aussi être une alternative. Il y a Boigard aussi qui peut s'insérer au milieu ou sur un côté, donc à voir. Mais,
Et puis Sangaré qui est toujours là lui aussi.
Qui est parti à la CAN U23, mais Sangaré qui, je trouve, n'est pas très bon depuis le début de la saison, donc on espère le revoir vite à un meilleur niveau.
C'est noté, donc plutôt pro Pichoun autour de moi sur ce plateau. Allez, vous y êtes maintenant habitués, c'est l'heure de donner les traditionnelles récompenses aux joueurs du TFC.
Vous allez peut-être être surpris par ma saucisse.
On commence par la spécialité de notre région, le Magret. Hugo, c'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné côté Toulousain?
Très très difficile le choix. Franchement, ça a été vraiment, on l'a dit, une performance assez médiocre collectivement. Donc moi, j'ai pas vraiment de bonne performance, on va dire. Allez, peut-être pour l'encourager, allez, on va dire Koné. Mais c'est vraiment pour l'encourager parce que on sent qu'il a été lui aussi dépassé, mais il a peut-être un peu aidé pour ressortir les ballons, notamment. À partir de l'entrée de Koulouris en deuxième mi-temps, il a un petit peu projeté le jeu vers l'avant, si on peut dire. Et il a un petit peu surnagé par rapport à Vainqueur, on l'a dit, dans l'entrejeu. Mais vraiment, c'est par défaut. Quoi.
Thomas ?
Moi, la même chose. Très compliqué d'en sortir un du lot. Bon, ça a été une prestation très très moyenne. Mais oui, bon, Koné aussi pour l'encourager, parce que je pense que c'est un des jeunes qui se donne le plus, qui montre justement qu'il est capable d'être titulaire dans cette équipe toulousaine. Ça fait donc du coup deux matchs qu'il est titularisé. Pour moi, il faut continuer. Il ne faut pas le mettre sur le banc. Donc voilà, Koné.
C'est mis.
Bah, la passe de 3, mais un Magret, pas très bon à manger, on va dire. Hein, parce que honnêtement, voilà, on l'a dit, la performance collective, Hugo il l'a souligné, elle était pas bonne. Individuel, c'est pareil, il n'y a vraiment aucun joueur qui est ressorti du lot, si ce n'est le jeune Koné, parce qu'il est jeune, justement, parce que c'est son deuxième match et parce que il a cette capacité d'orienter le jeu, d'essayer de garder le ballon. Et surtout, on sent vraiment qu'il n'a pas froid aux yeux. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant, surtout à son âge. Donc on espère qu'il va poursuivre justement sa progression et qu'il va apporter à l'équipe tout au long de la saison.
Koné, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un excellent papier dans le JT Foot la semaine dernière.
Tout à
par
fait.
Un de nos nouveaux rédacteurs.
Victor Coudreau, pour ne pas le citer.
Pour ne pas le citer. Allez, on passe maintenant à la Violette, le joueur qui, sans avoir nécessairement été impressionnant, a su tirer son épingle du jeu, celui qui a pu vous faire plaisir à regarder. Samy, c'est qui ta Violette?
Alors honnêtement, j'ai hésité. Au début, je voulais pas en mettre. Et puis finalement, j'ai pensé à Boigard, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, et c'est vrai que là il a plus trop la chance de se montrer, et il est rentré 10 minutes. Bon, je vais pas vous mentir, il a pas révolutionné le jeu du TEF, mais j'ai senti un peu d'envie, j'ai senti des tentatives de percuter Corentin et pas de persécuter. Donc voilà, je mets Boigard, mais honnêtement, parce qu'il n'y avait pas énormément de choix, et je pense qu'on va tous se répéter hein, sur les points positifs, il n'y en a pas beaucoup.
Ouais, moi pour la Violette, c'est assez compliqué, mais je vais mettre Koulouris, parce que on a senti du moins que quand il est rentré, il a apporté comme deuxième attaquant. Ça a été peut-être une des rares satisfactions vraiment sur la deuxième période aussi du TEF. Koulouris, on sait que voilà, il aime bien jouer avec un deuxième attaquant, mais il peut aussi jouer seul, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Il l'a fait en début de saison, donc pourquoi pas être finalement l'attaquant numéro vraiment un du TEF pour les prochains matchs, quoi.
Est-ce qu'était le plan de jeu au départ, mais il y a eu des moments un peu bas et Sanogo est sorti du bois, à voir comment ça se passera pour la suite de la saison.
C'est vrai.
Thomas.
Ouais, bah pour la mienne, moi, du coup, c'est Dosevi, parce que malgré le fait qu'il n'ait pas fait un grand match, moi, c'est surtout l'état d'esprit que je retiens, parce que c'est un des seuls justement qui est toujours là, toujours combattant, et ça, voilà, c'est ce qui m'a plu. Après, j'ai pas forcément plus de contenu sur ça, mais juste, voilà, c'est juste un encouragement, en tout cas. Dosevi, il faut qu'il continue comme ça.
Et on va finir avec la saucisse, le joueur qui est passé en travers. Là, j'imagine que ça devrait pas être difficile d'en trouver. Ce qui va être le plus compliqué, c'est d'en choisir un. Thomas, t'as choisi qui comme saucisse ?
Moi, j'ai un reste sur vainqueur. Hein. Parce que moi, enfin, voilà, j'étais au début vraiment assez content de son arrivée. Je pensais que ça pouvait vraiment être un cadre de l'équipe qui pouvait aider justement de par son expérience, parce qu'il a quand même fait des grands clubs. Si je ne me trompe pas, il a fait la Roma, il a fait, il me semble, l'OM aussi. Mm-hmm. Donc voilà, c'est quand même il n'arrive pas de nulle part. Monaco également. Bien vu. Et moi, pour l'instant, moi, le rendement de la saison, il n'y est pas. Et là, le petit pont qu'il prend par Delors sur le but, c'est pas possible, en fait.
Je te trouve un peu dur, moi, Thomas, avec vainqueur, parce que j'étais comme toi, en fait, très, très heureux de sa venue. C'est vrai que le début de saison, il était moyen. On se sentait... il prenait peu de risques, beaucoup de relances sur les côtés, etc. Mais c'est vrai que depuis quelques matchs, je trouve qu'il est quand même... plutôt bon, qui commence à apporter justement ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire de la récupération, des relances vers l'avant, voilà, ce lien entre la défense et le milieu. Donc voilà, moi je te trouve un tout petit peu dur, même si c'est vrai qu'il est peut-être pas là où on l'aurait attendu. Et là je te rejoins totalement, c'est le petit pont de Delors. Moi je trouve que ça manque énormément d'agressivité et que tu peux pas prendre un petit pont comme ça en Didier Drogba talonnade derrière.
D'accord, d'accord. J'ai quand même eu l'impression de revoir le William vainqueur du début de saison, pas une passe vers l'avant, que du latéral ou vers l'arrière. Je veux dire, ça c'est quand même très handicapant. Alors c'est pas le seul souci dans l'entrejeu, mais ça aide pas à construire et à
contre
avoir...
Montpellier, oui, complètement, je suis d'accord avec Thomas, mais moi je parle plus de façon générale, parce que ouais, Thomas, global. De façon globale, depuis le début de la saison, moi je trouve qu'il
pas
est...
emballé non plus, mais...
Après, c'est le seul profil défensif, parce que finalement, il n'y avait pas Sangaré, et Koné, on peut
qui
pas dire
si défensif que ça,
voilà.
Non plus d'ailleurs, Sangaré.
Donc non, mais c'était vraiment le seul profil défensif, on va dire, au milieu de terrain disponible, donc c'est pour ça, il monte en puissance petit à petit, c'est vraiment petit à petit, mais... pour l'instant, il est indispensable parce que c'était vraiment le seul milieu défensif de
Complètement
métier.
D'accord, Nico.
Samy, du coup, ta saucisse ?
Ma saucisse, moi, bon, bah, tu l'as dit, il y avait du choix. Moi, j'ai choisi Izimat Mirin parce que, pareil, il est arrivé dans la défense centrale. Avec la défense actuelle qui est complètement décimée, on se dit que ça peut être lui qui prend les rênes de cette défense, justement, qui s'impose en leader, en patron. Et c'est tout le contraire. Je le trouve, honnêtement, et j'aime pas tomber comme ça sur des joueurs, je le trouve catastrophique. Mais catastrophique. Et il y a un truc qui illustre bien son match, en fait, c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez, sa remise de la tête à René, et il a failli le lober, en fait. Parce que c'est pas maîtrisé, c'est brouillon. La relance, elle est très mauvaise. Même physiquement, je te dis, il y a des attitudes aussi. Sur le troisième but, moi, ça m'a vraiment choqué. Donc moi, Izimat Mirin, malheureusement.
Ouais, on se dit un peu que si Shoji, Diakité était là, ici Matt Mirin verrait pas beaucoup les terrains.
Mais ouais. C'est ce qu'on disait, ouais. Je pense que c'est plus un troisième couteau pour Comboiré dans l'effectif. Mais,
ouais, voir un quatrième, à voir.
Mais ça illustre un manque de confiance aussi, hein, de la défense. Bien sûr. C'est pas possible, hein, d'être. Et heureusement d'ailleurs, Rogel, je sais pas si vous avez eu la petite news du jour, il est revenu à l'entraînement. Ouais.
Mais après, on ne sait pas ce que ça vaut, on n'a pas de certitude sur Rogel.
Non, c'est vrai, il s'est blessé cash, mais bon.
Et c'est vrai, c'est vrai qu'après on constate que les Pichoun, les Diarra, les Goncalves, ça a un peu du mal à faire des bonnes performances, mais il faut dire qu'ils sont pas nécessairement aidés avec le cadre qui devrait être là pour les épauler.
Le cadre, est sans citer les latéraux, enfin je veux pas.
Non, les latéraux sont pas en forme.
C'est catastrophique, mais.
Ouais, justement, Samy m'a piqué ma saucisse. et donc, non, c'était Izimat Mirin, mais. Allez, pour changer, on va pas, dire Diarra, parce que franchement, ça commence à devenir un peu embêtant de signaler vraiment les mauvaises performances à chaque fois de Goncalves ou de Diarra. C'est des jeunes, donc on va leur laisser du temps, mais on va dire peut-être Amiens qui avait vraiment apporté quelque chose, on va dire, face à Lyon, avec Dosevi, il y a une très belle complémentarité. Là, c'est vrai que bah, finalement, ils ont été débordés, que ce soit Amiens ou même Silla, les deux latéraux. Allez, les deux latéraux ont vraiment été débordés par l'activité, notamment de Laborde et de Delors, qui ont profité de la passivité de la défense centrale et aussi des côtés. Quoi. C'était vraiment journée porte ouverte et c'était catastrophique. Quoi.
Ouais, donc il y avait énormément de saucisses apparemment à la Mosson dimanche. En tout cas, avec cette nouvelle défaite, le TFC se retrouve plus que jamais dans la zone rouge avec 12 points et une 19e place au classement. Le calendrier des Violets est toujours corsé et le prochain adversaire c'est Marseille qui arrive dans 10 jours sur les bords de Garonne. C'est mission impossible de prendre des points à cet OM là ?
C'est pas mission impossible, mais c'est mission difficile. Parce que l'OM a fait le plein de confiance face à Lyon, a fait une très grosse prestation. Et l'OM, on sait, s'amuse à Toulouse. Il y a beaucoup de supporters en général et c'est un match toujours compliqué. Maintenant, voilà, l'OM, on l'a dit, il va avoir une défense aussi un peu décimée. Toulouse, c'est quand même mieux à domicile. Il y a, en tout cas, sur les derniers matchs, il y avait de l'entrain, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est toujours pareil. Il faudra avoir l'état d'esprit adéquat et l'envie et voilà, et le sérieux, la concentration pour faire un résultat contre une bonne équipe de Marseille.
Et tu pronostiques quoi ?
Je pronostique un... Tu me prends de court, là. Mais moi, je dis qu'il va y avoir 2-1 pour Marseille, malheureusement.
Thomas ?
Ouais, alors moi, je pense aussi qu'un point qu'il faut soulever, c'est qu'il va y avoir Trévis Vernal qui va arriver. Ce qui fait que je pense que Combray va enfin pouvoir vraiment travailler avec son groupe un peu en profondeur et mettre en place au moins quelques tactiques, voire même un peu de... Surtout défensivement, essayer de faire quelque chose. Parce que bon, là honnêtement, c'est pas possible. Mais contre l'OM, oui, il y a un OM très en forme, un Payet qui a marché sur Lyon tout simplement ce week-end. Donc compliqué, mais après, un nul, c'est pas totalement impensable. Moi, je vois pas un nul, hein, honnêtement. Mais je pense que c'est quand même... C'est pas impensable, mais après, voilà. Moi, je pense un petit 2-1, enfin 1-2, du coup, pour l'OM, malheureusement.
C'est une réponse d'Auvergne, ça.
Peut-être.
Hugo
C'est compliqué face à Marseille. On sait que voilà, Marseille est une équipe souvent qui a des temps forts vraiment dans la saison et des temps faibles aussi. Donc il se peut que voilà, dans deux semaines, finalement, ce soit un temps faible juste après la victoire face à Lyon. Ça n'arrive pas à enchaîner. Bon, vous me direz, le TFC aussi. Donc c'est compliqué, mais le TFC a un calendrier vraiment chargé avant la trêve de Noël. Et il va vraiment falloir prendre des points pour pas s'inquiéter finalement au classement. Il y a la réception de Marseille, donc il y a un déplacement à Nantes, il y a la réception de Monaco après. Donc ça va vraiment être chargé. Et on espère que Comboiré va vraiment pouvoir faire du travail de fond, notamment avec cette trêve internationale qui arrive, parce qu'il a été obligé de travailler dans l'urgence, finalement, à la dernière trêve internationale. Donc là, il y a un peu plus de temps, on va voir ce que ça va donner, mais on espère, ouais, forcément, au Stadium.
Ouais, ça respire pas non plus l'optimisme autour de moi sur le plateau.
Hein. Hugo, il échappe au pronostic, du coup.
Oui, c'est vrai que lui aussi, il a pas envie de répondre.
Je suis pas très bon. Ah. Les paris en sport, c'est pas mon truc.
Très bien.
Désolé.
Bon, en tout cas, on croise les doigts pour le TFC qui vit actuellement une période extrêmement compliquée. Sans transition, on passe maintenant au quiz et on accueille Simon qui nous en a préparé un plutôt technique. Alors Simon, sur quoi tu vas nous interroger ?
Eh ben aujourd'hui, on va parler de délocalisation, puisque Rodez vient de jouer son dernier match au Stadium ce week-end. Donc j'ai préparé 5 questions un peu pour vous tester sur ce sujet-là. Et on commence par une question un peu plus facile, je dirais. Le 30 septembre 2017, une barrière du stade de la Licorne s'effondre et fait 29 blessés. Mais où le club Picard a joué les matchs qui ont suivi ?
Pierre Morin
au LOSC, ouais.
Le match suivant s'est déroulé au Havre, dans l'enceinte du stade Océane. Donc, je sais pas si quelqu'un de vous l'avait.
Ouais, non, le stade Océane, ouais. J'avoue que j'ai pas beaucoup été dans ma vie.
Ouais, c'est pour les connaisseurs. On passe à la deuxième question, un peu plus historique. J'imagine que vous aurez tous la réponse. Le 8 août 1992, Bastia démarre sa saison en accueillant Valence au stade Mesavia d'Ajaccio. Mais pour quelles raisons ils se sont rendus à Ajaccio ?
Le drame de Furiani ?
Exactement. Un peu plus facile.
Trop rapide.
Ouais.
Okay. Bien joué.
On continue toujours avec les clubs français et on parle maintenant d'un club français qui s'est vu remonter la, qui s'est vu refuser la montée en Ligue 2. Est-ce que vous savez
Let's finir la question, on l'avait tous.
Donc ça s'est passé en 2014 et depuis il y a eu des rebondissements hein, récemment, je pense que vous l'avez vu. Et c'est d'ailleurs Rodez qui a appuyé le dossier qu'a monté l'USNAC et leur a proposé d'utiliser leur stade. On termine avec les deux dernières questions. Et première question, on se dirige vers l'Amérique du Sud. On a River Plate et Flamengo qui vont se rencontrer le 23 novembre pour la finale de Copa Libertadores. Elle devait se tenir au Chili, mais évidemment avec les troubles politiques, elle va être délocalisée. Mais dans quel stade et dans quel pays ça va se tenir?
Alors, en Espagne, non?
Non.
Ah, bon.
Je ne l'ai pas du tout.
Indice, c'est pas très très loin.
Je l'ai vu passer il y a longtemps, mais non.
C'est pas Montevideo?
Non.
En Colombie?
Non, personne là, j'ai l'impression. C'est au Pérou.
Lima, j'allais le dire.
À Lima, exactement. Et oui.
On va pas mentir, on m'a fait des grands signes pour m'indiquer quand même où ça se passe en régie.
Non, mais celle-là n'était pas si facile que ça. Et dernière question, toujours en lien avec l'actualité. On va parler un peu de Liga. On a Villarreal et l'Atlético Madrid qui devraient jouer autre part qu'en Espagne le 6 décembre prochain. Mais est-ce que vous savez où ça pourrait être délocalisé?
Miami.
Exactement, ce serait à Miami. On a une réponse d'ailleurs définitive qui devrait tomber le 14 novembre et ce serait la première fois qu'un match de Liga se déroulerait aux États-Unis.
Bon bah je crois qu'on n'a pas de vainqueur du coup pour ce quiz, donc on retiendra juste qu'il y a Thomas qui n'a marqué aucun point, donc ouais, qui
merci,
est ouais. Le grand perdant.
J'ai pas triché.
Allez, merci à toi Simon, allez c'est la fin de JT Foot, merci de nous avoir suivis, on remercie tout le monde, les chroniqueurs et surtout la régie. On se retrouve après la trêve internationale dans 2 semaines, et pour paraphraser un ancien de l'JT, prenez soin des vôtres, salut à tous.